Chapitre 6. La France, une nouvelle place dans le monde. Cours 3. La Ve République de 1962 à 1974. Indépendance nationale et modernisation. En 1962, la France tourne la page de la guerre d'Algérie. Une croissance économique sans précédent nourrit l'optimisme des Trente Glorieuses. De Gaulle, puis Pompidou, veulent moderniser la France et affirmer son indépendance. A. La France gaullienne dans le monde. La politique de grandeur. Après 1962, De Gaulle multiplie les voyages à l'étranger pour porter la voix du pays. En 1966, la France se retire du commandement intégré de l'OTAN. Elle reste membre de l'Alliance Atlantique, mais n'accepte plus de bases américaines sur son sol. Elle entend assurer seule sa défense par la dissuasion nucléaire, héritée de la 4e République, premier essai de la bombe A en 1960, premiers avions bombardiers en 1964. En 1967, à Phnom Penh, Cambodge, De Gaulle critique l'intervention américaine au Vietnam. De Gaulle contre l'Europe. Dès son arrivée au pouvoir, De Gaulle défend une Europe des patries, en rupture avec la politique fédéraliste menée sous la 4e République par Monet et Schuman. En 1965, il pratique la politique de la chaise vide à la CEE pour maintenir le vote à l'unanimité au Conseil. Il bloque à deux reprises, 1963 et 1967, l'entrée du Royaume-Uni dans la CEE, jugée trop proche des États-Unis. Une économie ouverte sur le monde. Mais la CEE est aussi pour De Gaulle un moyen de moderniser la France, cette fois en continuité avec la 4e République. Il encourage la modernisation industrielle avec le lancement du plan Calcul en 1966, un plan industriel pour soutenir le développement de l'informatique dans le pays, face notamment à la concurrence américaine. Pour attirer les touristes du monde entier, l'État aide les entreprises à aménager des stations de ski, plan neige de 1964, et des stations balnéaires. Cependant, De Gaulle est dépassé par une société plus jeune et tournée vers la modernité. B. Le tournant de mai 1968. La révolte étudiante. Le 22 mars 1968, à Nanterre, des étudiants occupent la salle du conseil de la faculté pour protester contre l'arrestation d'un étudiant opposé à la guerre du Vietnam, mais aussi contre les règles rigides de l'université. Le 3 mai, la Sorbonne est évacuée par la police. Les premiers affrontements entre policiers et étudiants éclatent à Paris, dans le quartier latin, avant de s'étendre à toute la France. Le 10 mai, la nuit des barricades est la plus violente. La crise sociale et politique. Pour protester contre la répression policière et le régime gaulliste, les partis politiques et les syndicats en appellent à la grève générale. Le 13 mai 1968, la France compte plus de 10 millions de grévistes. Les oppositions socialistes et communistes appellent à la démission de De Gaulle, mais les partis sont divisés quant aux alternatives. Le 27 mai, le Premier ministre Pompidou signe avec les représentants syndicaux les accords de Grenelle permettant une hausse de 35% du SMIG. De Gaulle affaibli. Le 30 mai, De Gaulle annonce la dissolution de l'Assemblée. Le même jour, les forces gaullistes organisent une grande manifestation de soutien au général. Les élections législatives des 23 et 30 juin 1968 font triompher les gaullistes à l'Assemblée. Cependant, fragilisé par les événements, De Gaulle est contraint de quitter le pouvoir en 1969, après le rejet par référendum de son projet de réforme des régions et du Sénat. Premier ministre de De Gaulle, Georges Pompidou est élu président de la République en 1969. C'est les années Pompidou, 1969-1974. La relance européenne. Pompidou rompt avec la politique très méfiante du général vis-à-vis de la CEE. Il prend l'initiative du sommet de La Haye en décembre 1969, qui accepte l'entrée du Royaume-Uni, de l'Irlande et du Danemark. Le traité entre en vigueur en 1973. L'Europe des Neuf rassemble alors une population plus nombreuse que celle des États-Unis, 273 millions d'habitants contre 211 millions, et concentre le tiers des échanges mondiaux. La détente. La politique gaullienne d'indépendance est poursuivie par Pompidou, mais dans un style moins flamboyant, insistant plus sur la coopération que sur la grandeur. Pompidou profite du contexte de la détente pour accueillir à Paris, en 1971, le dirigeant soviétique Léonid Brejnev pour sa première visite en Occident. En 1973, il est le premier chef d'État occidental reçu en visite officielle en Chine. La même année, la capitale accueille la signature des accords de Paris, mettant fin à la guerre du Vietnam. Une France plus moderne ? Pompidou poursuit la politique industrielle de son prédécesseur en soutenant les secteurs les plus modernes, comme l'aéronautique, premiers essais de l'avion supersonique Concorde en 1969, et l'automobile, alliance Peugeot-Citroën en 1974. Il souhaite tirer les leçons de mai 1968 et veut créer avec son premier ministre Jacques Chaban-Delmas une nouvelle société. Grand amateur d'art contemporain, Pompidou modernise la politique culturelle de la France. Il crée à Paris le Musée national d'art moderne, l'actuel Centre Georges Pompidou, inauguré par son successeur en 1977, Valéry Giscard d'Estaing.